Radio Okapi. Pascal Masseka pour les journaux.
À la une du journal, la FIDH dénonce des crimes commis par les forces de l'ordre de la RDC et des miliciens contre des civils à Kamonia, au Kasaï, entre mars et juillet. Selon cette organisation des droits de l'homme, c'était en représailles au soulèvement de la milice Kamouenansapou. En Ituri, les porte-parole de la FRDC annoncent que deux militaires ont été attaqués à la machette par des habitants et des maisons incendiées dans certains villages du territoire de Djougou. Des voix s'élèvent pour demander au gouvernement central d'éviter un conflit identitaire dans cette province. Le ministre de Pétentik dénonce la spoliation du patrimoine immobilier de la SCPT à Kinshasa. Emery Okundji a arrêté dans la capitale la construction des résidences privées en lieu et place d'une villa de l'entreprise à la Gombe. Il est invité de Radio Okapi. Madame, Messieurs, bonsoir. Dans un rapport publié ce mercredi, la Fédération internationale des droits de l'homme fait état des crimes commis par les forces de l'ordre de la RDC et des miliciens contre des civils dans les territoires de Kamonia au Kasaï entre mars et juillet dernier. Cette organisation internationale des droits de l'homme ajoute que ces violences sont intervenues en représailles au soulèvement de la milice Kamouenansapou. À Kananga, d'autres précisions avec vous, Joël Bofengo.
La FIDH a recueilli des témoignages auprès des réfugiés congolais en Angola pour l'Organisation des défenses des droits de l'homme. Les témoignages de ces réfugiés illustrent le calvaire subi durant au moins 5 mois par les populations civiles dans ces territoires de la province du Kasaï. Le rapport mentionne ainsi des villages détruits à l'arme lourde, des attaques d'hôpitaux et des lieux de culte, des exécutions, tortures et mutilations. D'après les récits des réfugiés, lit-on dans le document, il apparaît qu'entre mars et juillet 2017, les éléments de la milice Kamouenansapou, les forces de défense et de sécurité et les membres de la milice Banamoura ont alternativement pris le contrôle de plusieurs villages. L'organisation explique en outre que les forces de défense et de sécurité congolaises ont soutenu la milice Banamoura lors des massacres visant les populations Luba. Elle évoque notamment une attaque menée le 24 avril dernier contre les villages de Cinq par les miliciens Banamoura. L'attaque aurait fait des centaines de morts. La FIDH demande aux autorités congolaises de mener des enquêtes indépendantes et impartiales sur ces crimes afin de poursuivre en justice leurs responsables. Depuis Kananga, Joël Bofengo, Radio Okapi.
Poursuite ici à Kinshasa du procès des présumés Kamouenansapou. Le tribunal militaire a rejeté la requête de mise en liberté provisoire des prévenus dans son jugement avant dire droit rendu à l'audience publique d'aujourd'hui mercredi à la prison militaire d'Ndolo. Le tribunal militaire a décidé de maintenir en détention les prévenus. Par conséquent, il amorce l'instruction de la cause dans son fond. La défense qualifie quant à elle ce jugement d'inique et annonce de l'attaquer par un appel. Un reportage de Jeff Ngoy.
Par son jugement avant dire droit sur les exceptions soulevées par la défense relative à l'incompétence du tribunal de juger cette affaire et aux irrégularités de procédure, le TMG se déclare compétent d'instruire la cause. Il ne reconnaît aucune irrégularité. Le président du tribunal rend le jugement.
Le tribunal reçoit les mémoires des prévenus, mais les dits non fondés. Reçoit les requêtes de mise en liberté provisoire, mais les rejette. Dit que le prévenu reste.
Juste après ce jugement, le collectif de la défense des prévenus attaque. Il veut que son appel soit acté immédiatement au bas du jugement. Le ministère public réplique et rappelle le droit.
Je demande à la défense de lire l'article 248 du code judiciaire militaire.
La partie civile et la République renchérit.
Les droits qui appartiennent aux prévenus de relever appel ne leur sont pas retirés. Ils peuvent se rendre au greffe pour pouvoir relever appel.
La défense évoque une décision d'une extrême iniquité et un procès inéquitable, parlant d'une confusion dans le chef des conseils de la partie civile.
On va directement au greffe quand on est porteur d'une procuration à informer la. Ici, il s'agit des cas de déclaration d'appel. C'est que la partie civile confond.
Fini l'instruction de la cause dans sa forme. Le TMG ordonne ainsi, sans désemparer, l'instruction du fond le 27 décembre prochain.
Merci Jeff Ngoy pour ces précisions. Justice encore, le tribunal militaire de Kamina a rendu lundi dernier son verdict dans le procès qui oppose le ministère public aux 8 miliciens de l'APCLS Niatoura. Tous ces prévenus sont condamnés à la perpétuité. Ils étaient poursuivis pour génocide commis pendant leur séjour au centre de désarmement et démobilisation à la base de Kamina au mois de septembre 2016. La section d'appui à la justice et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD ont apporté l'appui logistique lors de ce procès. Le compte-rendu de Denise Maéou.
C'est au cours de l'audience de ce lundi que le tribunal militaire garnison de Kamina a reconnu coupable de génocide tous les 8 ex-combattants de la milice APCLS Niatoura et les a condamnés à la peine à perpétuité. Ils devront aussi payer subsidiairement avec l'État congolais les dommages et intérêts à deux familles parmi celles qui se sont constituées partie civile. La somme de 2 500 000 francs congolais nous a indiqué l'un de leurs avocats. Pour rappel, le ministère public avait requis la peine à perpétuité pour 7 de ses accusés et l'acquittement pour le 8e prévenu. Les avocats des prévenus, eux, demandaient au ministère public de requalifier l'infraction de génocide et parler plutôt de meurtre. Notez que les ex-combattants de la milice APCLS s'étaient affrontés à ceux de FRPI au camp de désarmement et démobilisation à Kamina en septembre 2016. 3 membres de FRPI, dont le corps était enterré dans une fosse commune, avaient été exhumés. Lubumbashi, Denise Mayo, Radio Okapi.
Et puis, 2017 a été difficile et complexe pour la MONUSCO et la République démocratique du Congo. Déclaration faite ce mercredi ici à Kinshasa par la porte-parole de la mission onusienne. C'était au cours de la dernière conférence de presse hebdomadaire de l'ONU pour cette année. Florence Marchal a rassuré cependant que la MONUSCO et tout le système onusien à pied d'œuvre en RDC feront tout en vue de la stabilité et le développement du pays. Et ces propos sont recueillis par Honoré Missenga Kalala.
Nous avons vu dans ces pays une aggravation des crises, à la fois politiques, économiques, sécuritaires, humanitaires. Nous avons perdu des casques bleus, nous avons des collègues experts des Nations Unies qui ont été assassinés. Des milliers de Congolais ont dû être déplacés en raison des conflits. D'autres Congolais souffrent de malnutrition sévère. Mais il est vrai aussi que les Nations Unies, la MONUSCO et les agences fonds et programmes des Nations Unies sont présents aux côtés des autorités congolaises et des populations congolaises afin d'apporter, dans la limite de leurs ressources disponibles, tout le soutien et le réconfort possible qu'on puisse apporter aux populations congolaises.
Pour sa part, la majorité présidentielle qualifie 2017 d'une année éminemment et incontestablement politique au regard des faits qui l'ont marqué. La chose la plus importante que la majorité présidentielle retient de cette année, c'est l'engagement de son autorité morale. En l'occurrence, le président Joseph Kabila, accompagné par sa famille politique, à la mise en œuvre intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre. Le porte-parole de la majorité présidentielle l'a dit aujourd'hui au cours d'une conférence de presse. Selon André Alain Atundu-Liongo, l'avènement phare qui a couronné de belle manière l'engagement du président Joseph Kabila à tout faire à cet effet fut incontestablement la publication récente du calendrier électoral par la CENI. La majorité présidentielle s'est dit convaincue que l'examen de conscience qui marque la fin de cette année viendra à bout des dernières réticences à rejoindre le processus électoral. Autre nouvelle, en Ituri, la situation sécuritaire se dégrade ces jours-ci dans le territoire de Djougou. Selon le porte-parole des FARDC dans la région, 2 militaires ont été attaqués par des habitants munis des machettes à environ 60 km au nord de Bounia. Des sources concordantes affirment à Radio Kapi que des maisons ont même été incendiées hier soir et ce matin dans certains villages. Des voix s'élèvent pour demander au gouvernement congolais de prendre ses responsabilités afin de mettre un terme à ces conflits identitaires qui risquent d'endeuiller encore cette nouvelle province. À Bounia, le point de la situation avec vous, Isaac Remopé.
Des sources locales rapportent que ces 2 militaires ont été invités par un chef coutumier pour disperser un groupe d'habitants qui serait en train de monter une conciliabule pour se venger contre leurs voisins. À leur arrivée, ces soldats ont été agressés par ces habitants. Ils ont ravi leurs armes après avoir blessé à coups de machette l'un d'eux. Le porte-parole des FARDC en Ituri déplore cette attaque contre les forces loyalistes. Il indique que des enquêtes sont en cours pour retrouver les auteurs et dénicher les mobiles de ces actes devenus récurrents contre les militaires dans cette zone. Un soldat a été tué tué lundi et un autre dépouillé de son arme le week-end dans la même région. Par ailleurs, la tension persiste entre certains membres des communautés Lendu et Hema. Selon les chefs de Baïmanor, environ 60 maisons ont été incendiées mardi soir au village de Lonjou par certains habitants venus de la collectivité de Walindu-Pitsi. Ces derniers ont poursuivi leur assaut ce mercredi matin dans d'autres villages pour incendier les cases. Selon des sources locales, des dégâts matériels sont importants et tous les habitants ont fui dans des localités voisines. Certains notables et les députés provinciaux demandent au gouvernement de déployer des forces de l'ordre pour arrêter l'escalade des violences dans la zone. Bounia Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Élection demain jeudi des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces de l'Équateur, du Kasaï central et de la Mongala. À Mbandaka, le président de la société civile dénonce ce qu'il qualifie d'iniquité observée dans le processus. Il s'agit du parti pris, a priori, par une majorité des députés provinciaux en faveur du ticket de la majorité présidentielle. Fabien Mungunza le dit au micro de Paul-Richard Malengela.
Au travers du comportement des députés, ils ont déjà un parti pris. Si on se réfère au jour où les projets de société ont été présentés, nous avons observé qu'il a suffi que le premier intervenant termine son exposé pour que la majorité des députés l'accompagne et ne retourne plus à l'hémicycle. Ce qui a fait que les trois autres candidats ont prêché dans le désert. Ils sont entre guillemets séquestrés dans un hôtel, ce qui les prive d'entrer en contact avec les trois autres candidats au profit du seul candidat soutenu par les bureaux de l'Assemblée. Lorsqu'on voit les mémos signés par une dizaine de députés en faveur d'un candidat, la société civile émet des réserves par rapport à l'équité du processus. Voilà pourquoi nous en avons appelé, notamment à la Cour d'appel, à la CENI, mais nous en avons également appelé à l'Assemblée provinciale pour qu'elle puisse se ressaisir pour offrir à tous les candidats les mêmes chances de succès et faire de ce processus un processus qui permettra à cette province d'avoir de l'espoir pour son avenir.
J'ajoute que Radio Okapi n'a pas encore réussi à obtenir la réaction du bureau de l'Assemblée provinciale à ces sujets. Dans la Lomami, les députés provinciaux sollicitent l'intervention du président Joseph Kabila en vue de la reprise effective des activités à l'Assemblée provinciale. Dans une déclaration faite lundi après-midi, ces élus estiment que la suspension de leur institution par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Ramazani Shadari, n'a pas sa raison d'être. Il rappelle que l'édit budgétaire n'est pas examiné alors que s'achève bientôt leur session. Entre-temps, la motion de censure contre le gouvernement provincial est toujours pendante. Un extrait de cette déclaration est lu par le député provincial Isidore Moukadi, des propos recueillis par Chris Moukante.
Grande a été notre surprise qu'à la date de la plénière de vote de la motion le 14 décembre 2017, un message télégraphique émanant de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, nous parvient rappelant le président et le vice-président de l'Assemblée provinciale à Kinshasa et suspendant les activités de notre organe délibérant. Considérant le temps qui nous sépare de la fin de la session, soit 10 jours, nous sollicitons une nouvelle implication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, garant du bon fonctionnement des institutions, pour décanter cette situation préoccupante pour nous et pour les populations lomamiennes dans leur entièreté.
L'actualité sur Radio Okapi, c'est également cette rencontre tenue aujourd'hui mercredi à Kinshasa entre les ministres congolais et zambiens du commerce extérieur. Au menu, l'évaluation des mesures qui ont été prises au mois de juin dernier sur la normalisation du commerce entre les deux pays, des mesures qui ont affecté la fluidité du commerce. C'est notamment le commerce du bois rouge congolais qui transite par la Zambie. Les conclusions de cette concertation de Kinshasa avec le ministre d'État congolais du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, au micro de Daniel Tamizoni.
Déterminés à travailler ensemble pour résoudre les problèmes d'intérêt commun relatifs au commerce, ont décidé la mise en place d'un comité technique mixte chargé de l'opérationnalisation des travaux de l'érection du poste frontalier à arrêt unique à Kasumbalesa, le développement des mécanismes de lutte contre le fractionnement des marchandises et de la lutte contre la contrebande, le lancement officiel du régime commercial simplifié au mois de janvier 2018 à Kasumbalesa et de sa vulgarisation, la mise en place du comité regroupant les experts des douanes des deux pays pour la rationalisation et l'harmonisation des systèmes informatiques dont la première réunion est prévue au mois de janvier 2018 à Lusaka, et la mise en place d'un comité technique pour la résolution des questions de transit du bois rouge congolais sur le territoire zambien, et la rencontre entre les deux ministres chargés respectivement de l'environnement et du développement durable de la République démocratique du Congo, ainsi que des affaires foncières et ressources naturelles de la République de Zambie, prévue en janvier 2018 à Kasumbalesa.
Voilà qui nous conduit maintenant au Maniema, où la situation humanitaire empire dans les territoires de Kabambaré. Le réseau national des ONG pour le développement de la femme dépeint un tableau plutôt sombre des conditions sociales des déplacés internes. C'est confié à la presse ce mardi à Kinshasa. La coordinatrice du RENADEF tire la sonnette d'alarme et demande par conséquent aux décideurs d'intervenir rapidement pour mettre un terme à cette situation. Marie-Zaïna Nyombo le dit à Jeff Ngoy.
En tant qu'actrice et activiste des droits humains, la situation humanitaire dans les territoires de Kabambaré est précaire. Dans le sens que depuis un certain temps, je pense que vous êtes en train de suivre, il y a des affrontements entre la FRDC et les groupes communément appelés Maïmaï Malaika. Ces affrontements ont plongé le territoire de Kabambaré dans l'insécurité qui conduit la population au déplacement massif interne vers la forêt, qui conduit à la destruction des maisons, des églises, des écoles. Au moment où je vous parle, monsieur les journalistes, les enfants n'étudient pas, les livres pillés, brûlés. La démarche pour moi, monsieur les journalistes, c'est d'éveiller les consciences et interpeller ceux qui ont la décision de pouvoir faire arrêter cette situation ou de ceux qui peuvent avoir quelque chose à pouvoir venir en aide à cette population sinistrée.
Actualité Afrique Monde.
Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa a réitéré aujourd'hui mercredi à Harare, la capitale du pays, devant les parlementaires, son appel aux investisseurs étrangers à revenir dans son pays. Il leur promet une économie transparente, débarrassée de la corruption. « Mon gouvernement est déterminé désormais à ouvrir le pays aux investisseurs en construisant une économie libre et transparente », a-t-il déclaré lors d'un discours sur l'état de la nation. Emmerson Mnangagwa, âgé de 75 ans, a été investi, souvenez-vous, chef de l'État après la démission le 21 novembre de Robert Mugabe, 93 ans, poussé vers la sortie par un coup des forces de l'armée. 5 djihadistes ont été tués par les forces égyptiennes ce mercredi après-midi près de l'aéroport d'Al-Arish, dans le nord du Sinaï, où une attaque avait coûté la vie à 2 officiers la veille. Information livrée par des sources sécuritaires. Dans un communiqué publié aujourd'hui dans l'après-midi, le groupe État islamique très actif dans cette région bouclée par l'armée a revendiqué l'attaque survenue mardi et déclaré qu'elle visait plutôt le ministre de la Défense nationale et celui de l'Intérieur. Et puis, des centaines de Palestiniens ont lancé des pierres sur les forces israéliennes ce mercredi dans les territoires palestiniens. Ils protestaient ainsi contre la décision du président américain Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Les manifestations ont eu lieu au checkpoint de Gwaladi entre Jérusalem et Ramallah en Cisjordanie occupée. Nombre d'entre eux jetaient de cailloux sur les forces israéliennes. Les soldats et les policiers israéliens ont riposté par le gaz lacrymogène.